Merci pour vos prières. J'en ai bien besoin. Mais je suis aussi reconnaissante parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui apportent la parole. De plus en plus, le Seigneur nous encourage à nous lever les uns et les autres et on peut voir que le Seigneur pourvoit. Le Seigneur pourvoit, il prend qui est là et il nous donne ce dont on a besoin. Et moi, je suis vraiment reconnaissante. Sans lui, on ne peut rien faire. Je sais que sans lui, je ne peux rien faire. Mais avec lui, on peut tout. Avec lui, on fait des exploits. J'ai loupé le coche parce que le culte que nous avons aujourd'hui, on aurait dû l'avoir jeudi. Eh ouais, l'ascension, c'était jeudi. J'ai loupé le coche. Alors c'est vrai que c'est pas tellement dans l'habitude des églises de réveil, en tout cas la nôtre, de faire un culte le jour de l'ascension. Il y a des années et des années, on avait la convention des églises de réveil le jeudi. Donc en fait, on avait une célébration le jour de l'ascension. Et puis il y a eu une sorte d'essoufflement, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées, on change de saison. Et du coup, on n'a plus rien fait le jour de l'ascension. Et je me dis, mais il y a un truc qui joue pas là. On met tout le paquet pour Noël, mais Noël, c'est beaucoup moins important que l'ascension. Parce que Jésus existait déjà avant qu'il vienne comme bébé sur la terre. Mais l'ascension, ça a fait quelque chose, c'est un événement majeur dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire de l'humanité. Alors, fait diffuser les textes sur lesquels je vais m'appuyer ce matin. Prenez note si ça vous dit. Le texte de base, c'est Luc 24, à partir du verset 44, c'est le dernier chapitre de Luc, qui fait le lien avec le début du livre des Actes. Et ensuite, deux textes fondateurs, psaume 110, Daniel 7, les versets 13-14, et plusieurs textes dans l'épître aux Hébreux. Merci pour la technique. C'est vraiment quelque chose de se mettre à la technique, mais c'est super. Il y a l'équipe qui grossit, on a Mathilde, on a Esteban, on a François. C'est magnifique, merci. Et puisqu'on est dans la technique et dans les écrans, est-ce que vous êtes plutôt film ou plutôt série? Ni l'un ni l'autre, les deux à la fois. Avant, pour moi, c'était les films. Enfin, c'est ce qui me semblait. On allait soit au ciné, on regardait un bon film, soit à la télé. Maintenant, il y a Internet. Un film, quand c'est fini, c'est fini. Mais ensuite, il y a eu les séries. Ces derniers temps, la mode, elle est vraiment aux séries. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes devant la télé, vous ne savez pas trop quoi faire, c'est une soirée comme ça, où vous n'avez pas envie de grand-chose, vous zappez, vous tombez sur quelque chose qui semble un bon film, vous vous installez, vous regardez, et au moment où on arrive à la fin, c'est toute la tension est là, vous arrivez à l'apogée, et vous dites « cette fois je vais savoir, cette fois je vais savoir », crac ! Suite au prochain épisode, c'était pas un film, c'était une série. Ouh, mais qu'est-ce que c'est frustrant ! Mais qu'est-ce que c'est frustrant ! Alors qu'est-ce qu'on fait ? Soit on regarde la suite, soit on attend la semaine prochaine, soit on va acheter la série, comme ça on pourra les regarder vite à l'avance, puis on va savoir ce qui se passe. Et ça dépend encore du nombre d'épisodes. En fait, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Les séries, ça existe depuis longtemps. Quand j'étais petite, c'était au pays de Candy. Les séries, les successions d'épisodes, rien de neuf sous le soleil. Regardez l'histoire d'Israël. Regardez l'histoire dans la Bible. Il y a eu la création, il y a eu la chute. Après la chute, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est fait un peuple par Abraham. Ensuite, ce peuple, il a été en captivité en Égypte. C'est un épisode. Ensuite, il est sorti d'Égypte. C'est un autre épisode. Ensuite, il y a eu la période des juges. Un épisode. Ensuite, la période des rois. Un épisode. Et dans cette période des rois, il y a eu l'émergence des prophètes. Énormément de prophètes. Des épisodes qui se succèdent et tout se tient. Mais pourtant, les disciples de Jésus, ils n'avaient pas trop compris ce principe ou ils avaient oublié. Eux, ils pensaient qu'ils étaient en train de regarder un film et que quand c'est fini, c'est fini. Imaginez un petit peu par quelle émotion ils ont dû passer. Pendant 3 ans et demi, ils ont suivi Jésus. Et en suivant Jésus, ils l'ont entendu, ils l'ont vu, ils ont vu des miracles, ils ont même commencé à voir que des prophéties s'accomplissaient en lui. Et ils ont commencé à se dire, mais c'est lui, mais c'est de lui qu'on parle dans notre livre de l'Ancienne Alliance, de l'Alliance. C'est de lui, c'est lui le Messie, c'est certainement lui qui a annoncé. Une des prophéties, c'est quand il est monté à Jérusalem, assis sur un ânon, le petit d'une ânesse, et ils se disent, mais ça c'est Zacharie. C'est Zacharie qui l'a dit. Et petit à petit, il commence à accrocher les wagons, et tout à coup, crac, tout s'effondre, la violence de la croix. Le film s'arrête. Tous leurs espoirs tombent, c'est fini, il n'y a plus de disciples, ils se dispersent, ils abandonnent Jésus, il n'y a plus rien, plus personne. Terminé. Et tout à coup, d'autres émotions. La résurrection. Jésus est ressuscité. D'abord, ils l'apprennent, le tombeau est vide, tout à coup, Jésus apparaît, Jésus disparaît. À un moment donné, il va leur montrer son corps, ils peuvent le toucher, ils peuvent même manger avec lui. Lui, il mange. Il a un corps de chair, un corps en chair et en os. Et pourtant, il apparaît, il disparaît. Et qu'est-ce qu'ils sont, les disciples? Ils sont dubitatifs. Ça ne les change pas. Ça ne change pas leur vie. On l'a vu la semaine passée, ils retournent à leur ancienne vie, ils retournent à la pêche. C'est vraiment étonnant. Alors imaginez un peu dans toutes ces émotions qui se confondent dans leur cœur. Et à un moment donné, Jésus les emmène, il leur explique encore des choses, il ne va plus enseigner dans les synagogues, il ne va plus prêcher les foules, il s'adresse aux disciples, bien plus que les onze. On le sait, les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs ne faisaient pas partie des onze, ils ont retrouvé tout un groupe de disciples, ceux qui avaient grossi le groupe. Même ensuite, en attendant la Pentecôte, ils étaient 120. Alors on sait qu'il y avait du monde. Jésus est avec eux, il leur donne leur dernière prescription et il s'en va. Et là encore, les émotions des disciples qui sont mises à contribution. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que là où Jésus s'en va, puis cette fois-ci on dirait qu'il s'en va vraiment pour de bon, à ce moment-là, les disciples sont tout joyeux. C'est vraiment étonnant. Alors pourquoi? Est-ce qu'ils auraient compris qu'ils sont entrés dans un nouvel épisode? Ce matin, j'aimerais qu'on comprenne, pour nous, dans quel nouvel épisode nous sommes. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est toujours le même épisode depuis un bon moment. Mais si on ne comprend pas dans quel épisode on est, on loupe le train, on loupe le coche. Alors je vous invite à lire le texte dans Luc 24, à partir du verset 44 jusqu'à la fin du chapitre, le verset 53. Puis il leur dit, donc Jésus dit à tous ses disciples qui sont là, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris, les disciples? Jésus de nouveau se sépare d'eux, et cette fois-ci, ils sont dans la joie, ils n'arrêtent pas de louer le Seigneur. Allons reprendre le texte. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. » Jésus, il est avec vous comme maintenant moi je suis avec vous. Puis il leur dit, « Quand j'étais encore. » Mais en fait, il est là. Il est là, mais il n'est pas là. Il est là, mais il est là différemment. Son corps est changé, son corps est transformé. Il est le seul qui a ce corps-là. Lazare, il a été ressuscité, mais son corps était toujours le corps de mort. Il n'a pas vécu la résurrection que Jésus a vécue. Jésus, c'est le nouvel Adam, c'est le premier né d'entre les morts. C'est le premier qui a vécu la résurrection de son corps, un corps qui est toujours de chair et d'eau, mais un corps qui est glorifié, qui est glorieux et qui est esprit autant qu'il est chair. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Mais les disciples, ils ont pu le voir. Et Jésus leur dit, alors que j'étais encore avec vous dans un corps comme le vôtre, je vous disais qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et on l'a vu il y a quelques semaines, quand on dit dans la loi de Moïse, ça veut dire c'est Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est le Pentateuque. Les prophètes, c'est tous les livres prophétiques. Les psaumes, c'est les livres poétiques, mais c'est aussi les écrits, les livres historiques, comme Samuel, comme les rois, comme les chroniques, par exemple. Ça veut dire toute l'écriture, tout l'Ancien Testament. Et Jésus leur dit, dans toute cette écriture, pas seulement les prophètes, du début à la fin, il est question de moi. Et dans ces écritures, il y a marqué que je devais mourir et souffrir. Enfin, que le Christ devait, mais le Christ, il est en train d'attester que c'est lui. Ça devait se passer. Alors, il leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent tout ça. Ils ont déjà vu des choses, ils ont déjà des bribes, mais là, le Seigneur veut leur donner la vraie, pleine et entière révélation. Alors, il leur dit, ainsi, il est écrit. C'est permanent, c'est pas il était écrit, il est écrit. Donc, Ça vaut toujours, ça dure toujours. Il est écrit que le Christ souffrirait. C'est fait. Il est écrit qu'il ressusciterait des morts. C'est fait. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. C'est pas fait. Ça, c'est encore de l'avenir pour les disciples. Et Jésus leur dit, c'est tout un verset, vous êtes témoins de ces choses. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être témoin, par exemple, témoin d'un accident? Vous êtes dans la rue, vous êtes proche d'un carrefour, et là, tout à coup, sous vos yeux, il y a une voiture qui arrive à un stop, et au moment où il y en a une autre qui arrive, celle qui est au stop, ben elle démarre, et paf, c'est le choc. Si vous assistez à ça, vous êtes témoin. Vous êtes témoin avec vos yeux. Vous avez vu cette première voiture qui s'est arrêtée à son stop, la deuxième qui arrive, puis l'autre qui démarre. Vous savez pas pourquoi, mais vous avez vu. Mais vous avez aussi entendu, parce qu'à un moment donné, ça a fait crack. Et vos émotions aussi, elles ont tout à coup témoigné. Parce que quand vous avez vu ça, peut-être même que vous avez témoigné par la bouche. Ah! Peut-être que vous avez eu peur, peut-être que vous êtes dit « Waouh, il y a peut-être des blessés !» Et peut-être que ça vous a mis en route pour aller voir vers les voitures, est-ce qu'il y a des blessés ? Vous êtes témoin. Mais peut-être qu'à un moment donné, la police ou le tribunal ou quelqu'un va vous dire « Eh, viens, toi qui es témoin, viens témoigner. » Être témoin, c'est assister, mais c'est aussi témoigner. Raconter, dire, démontrer ce qui s'est passé. Et Jésus dit aux disciples, vous êtes témoins de ces choses. Les disciples, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont éprouvé, ils ont touché, ils ont parlé. Mais là, Jésus leur dit, maintenant, vous vous mettez en route et vous allez faire en sorte que la prédication de la repentance des péchés soit prêchée depuis ici, Jérusalem, mais dans toutes les nations du monde. Et ce matin, Dieu nous dit, vous êtes témoins de ces choses. Alors vous allez me dire, mais moi j'étais pas là quand Jésus est mort et ressuscité. Ah, oui et non. Oui et non. Si vous êtes là ce matin, c'est qu'il s'est quand même passé quelque chose. Si vous êtes là ce matin, c'est qu'à un moment donné, vous avez participé à la croix de Jésus. À un moment donné, vous avez été crucifié avec Christ. À un moment donné, vous avez reçu cette révélation qui vous a transformé. À un moment donné, le Saint-Esprit vous a ouvert le cœur pour que vous receviez ces choses et ça vous a changé. Votre vie n'est plus la même. Hein, Denis, si ça s'était pas passé, tu serais pas le même. Certains d'entre nous, on serait même peut-être plus de ce monde. Ouais, toi, tu serais pas là. Mais chacun d'entre nous, si ça s'était pas passé, notre vie serait différente. Nous sommes témoins de l'œuvre de la croix, de la résurrection. Et nous sommes mandatés par le Seigneur. C'est une responsabilité qu'il nous donne d'être témoins, de témoigner de ces choses. Alors notre témoignage, c'est quoi? Bien sûr que c'est d'aller évangéliser, mais c'est beaucoup plus que ça. Notre évangélisation, notre témoignage commence déjà dans le lieu secret de notre maison, dans l'endroit où on se présente seul à seul avec le Seigneur. Et ça, on verra pourquoi tout à l'heure. Notre témoignage, c'est ce changement de vie qui se manifeste. C'est de laisser Jésus nous transformer. Notre témoignage, il commence avec notre conjoint. Notre témoignage, il commence avec nos enfants, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos oncles et tantes, avec nos cousins et cousines, avec nos neveux, nos nièces. Notre témoignage, il se passe dans les enseignes oranges. Notre témoignage, il se passe au volant de la voiture. Il se passe dans la rue. Il se passe au marché. Il se passe au travail, à l'école. Partout. Notre témoignage, c'est une façon de laisser la vie de Jésus émaner de nous. Comment ça peut se faire? Qu'est-ce qui peut nous aider à avoir un vrai témoignage et avoir cette vie du Seigneur qui vit en nous, d'être rempli du Seigneur, que cette transformation, elle se voit? Eh bien, allons voir la suite. Jésus les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Je vous ai dit tout à l'heure, l'ascension de Jésus, c'est un événement majeur. C'est encore plus important que Noël. Parce que Noël, bien sûr que c'est important, c'est Jésus qui s'est incarné, qui a pris un corps d'homme, qui s'est humilié, abaissé pour venir partager notre condition limitée. Mais l'ascension, c'est un changement radical dans l'histoire humaine. Parce que, en montant au ciel, Jésus était fait de chair et d'eau. Jésus est le premier homme qui est monté au ciel et qui y est encore. Il est esprit, mais il est aussi corps. Il a pris un corps. Et Jésus, où est-ce qu'il est maintenant? Est-ce qu'il est en train de se reposer tranquillement sur un nuage? Allons voir où est-ce qu'il est. Daniel 7. Daniel 7, les versets 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Jésus est monté au ciel, il est monté dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels, dans la présence de Dieu où il a été intronisé. Jésus s'est assis sur le trône de la majesté divine, de la royauté. Jésus a pris sa place de roi des rois. Voilà ce qu'il est allé faire dans les cieux. Et c'est pour ça que on peut lire dans l'Apocalypse, je vous l'ai pas mis sur ma liste, mais ça, j'ai quand même envie de vous le lire. Le chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est le trône de Dieu. Et ça montre l'adoration qui se passe dans les cieux pour Jésus. Et aussitôt je fus saisi par l'esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième à la face d'un homme, etc. Il raconte tous ces êtres célestes qui jettent leur couronne devant le Seigneur pour l'adorer. Les 24 anciens, c'est tout ce qui est sur la terre. Ça représente les anciens de l'ancienne alliance, ceux de la nouvelle alliance. Les 12 patriarches, les 12 apôtres, on peut dire que c'est les croyants de la terre. Et ces êtres vivants, c'est les êtres célestes. Toute la création, tous les êtres vivants qui sont en train de louer le Seigneur. C'est là que Jésus est monté, le jour de l'ascension. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Alors oui, pour recevoir l'adoration, bien sûr. Mais est-ce que Jésus ne fait que recevoir l'adoration? Non. Jésus est actif. Et maintenant, au moment où je vous parle, Jésus est actif de cet endroit-là, de son trône. Au moment où nous étions en train de le louer, il était actif. Prenez le psaume 110. C'est peut-être le psaume qui nous parle le plus de ce moment, de cette réalité. C'est une prophétie. À l'époque, les gens ne pouvaient pas comprendre que c'était une prophétie, mais Jésus a ouvert l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent. Voilà pourquoi ils sont tout joyeux. Psaume 110, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus est à la droite de Dieu, à la droite du Père. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Le sceptre, la royauté, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Jésus reçoit l'adoration. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Jésus est sacrificateur à la manière de Melchisédek parce qu'il n'a ni commencement de jour ni fin de jour. C'est une sacrificature, une prêtrise éternelle. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Jésus est juge. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Ce que Jésus est en train de faire au ciel, avant son retour, avant le jugement final où il jugera les vivants et les morts, ce qu'il est en train de faire depuis le jour où il est monté au ciel, c'est ces trois offices. Ces trois offices qui sont déjà dans l'Ancien Testament et qui nous parlaient déjà de Jésus. Il a accompli ces trois offices en lui-même. Est-ce que vous savez ce que c'est ces offices? La royauté, ou fonction, ou ministère. La royauté, à l'image du roi David, qui était un type de Jésus, qui montrait déjà Jésus, un roi éternel, c'était l'onction de sacrificateur, comme Aaron qui a reçu l'onction sur lui, et c'était l'onction de prophète. Jésus en lui-même, il a accompli ces trois fonctions, et c'est ce qu'il est en train d'exercer maintenant, depuis qu'il est monté au ciel, devant les disciples, et à l'heure où je vous parle. Alors on n'a pas le temps de voir ces trois fonctions aujourd'hui. Mais j'aimerais déjà parler de celle de la sacrificature, ou du sacerdoce, ou de la prêtrise. Ce sont tous des termes, quand on les entend, des fois, ça, on a l'impression qu'il y a une espèce de relan religieux, alors on n'aime pas trop dire « Jésus est prêtre », moi je vois toujours, je ne vais pas le dire. J'ai une image qui n'est pas celle du Seigneur. Mais en fait, il faut aller voir qui c'était au moment de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Qui était Aaron, à quel service il a été dévolu, et ensuite tous les principaux sacrificateurs. Dans Hébreux 5, verset 1, il nous est dit ce qu'est un sacrificateur. En effet, tout souverain sacrificateur, le sacrificateur principal, pris du milieu des hommes et établi pour les hommes, en faveur des hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Ça, c'est le rôle du sacrificateur. Il est un médiateur entre les hommes et Dieu et il va présenter des sacrifices. Il va présenter des sacrifices pour plusieurs choses, mais la chose déterminante pour nos vies, celle dont on avait besoin, c'est les sacrifices pour les péchés. Et Jésus, en montant au ciel, puisqu'il est mort à la croix de manière injuste parce qu'il était sans péché, il a triomphé de la mort, il a triomphé du mal, et c'est cette victoire-là, c'est ce sacrifice de sa propre vie qu'il est monté, amené au ciel devant le Père, en disant « j'ai signé, c'est fait, c'est payé ». Et c'est en cela qu'il devient notre grand souverain sacrificateur. Et c'est pour ça qu'il reçoit la légitimité quand il est au ciel, et comme on l'a lu dans Daniel, il reçoit la domination, il reçoit l'autorité, il reçoit le pouvoir. Et ça, il l'a toujours aujourd'hui et maintenant. Paul, en Éphésiens 1, 20-22, il dira, en parlant de la puissance de Dieu, « Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout ce qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme chef suprême à l'Église. C'est dans cette position élevée que Jésus est actuellement. Et il a la domination sur toute chose. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est allé se présenter devant Dieu en tant que sacrifice vivant. Il a reçu la légitimité, il a reçu tout ce qu'il lui faut pour dominer, il a reçu le pouvoir, il a reçu l'autorité, il a reçu la domination. Et qu'est-ce qu'il en fait? Et c'est là que c'est tellement merveilleux. C'est qu'il prie pour nous. Aujourd'hui, maintenant, Jésus prie pour chacun d'entre nous. Jésus est en train de prier pour que ton cœur comprenne ces choses. Jésus est en train de prier pour que tu sois restauré. Jésus est en train de prier pour que tu comprennes exactement qu'est-ce que c'est que le salut. Jésus est en train de prier parce qu'il sait que tu as des faiblesses et qu'il aimerait t'aider. Jésus sait que tu as des problèmes. Il aimerait pouvoir intervenir dans ces problèmes. Pour moi, c'était tellement incompréhensible. Je me disais, mais Jésus, il a autre chose à faire que prier pour moi. J'arrivais pas à recevoir cette réalité. Et en fait, ce que j'entendais dire, c'est que, mais en fait, Jésus, il prie pour le salut. Il prie pour que les gens reçoivent le salut. Donc moi, je l'ai déjà reçu, il prie plus. Mais c'est pas comme ça. Allons dans Hébreux 7. Si vous avez envie de bien comprendre ce qui se passe dans les lieux célestes maintenant, si vous voulez comprendre cette sacrificature de Jésus, prenez du temps dans l'Épître aux Hébreux. Je pense que c'est le livre qui en parle le plus. Hébreux 7, les versets 24 à 25. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ça veut dire que toutes les personnes qui font appel à son nom, les personnes qui s'approchent de lui par son nom, par lui, Jésus intercède pour ces personnes-là. Jésus intercède pour leur salut. Ça veut dire que toi, quand tu vas dans ta chambre, et que tu pries le Seigneur, Tu es dans sa présence. Et ça veut dire que tu t'associes au sacerdoce de Jésus. Et tu lui dis, mais toi, Seigneur, tu as reçu la légitimité, tu as reçu la domination sur toutes ces puissances, tu as reçu l'autorité, alors je te demande d'intercéder auprès du Père dans la faveur de cette personne pour que son cœur soit touché. Si tu commences à comprendre ce que Jésus est en train de faire, témoigne de lui. Et ton témoignage, il se passe aussi dans le secret de ta chambre. Quand tu pries, tu témoignes que ce que Jésus a fait, c'est vraiment vrai, qu'il le fait maintenant, qu'il est vraiment en train de prier. Tu confesses qu'il intercède. Et en fait, tu es en train de prier avec lui. Tu n'es pas juste en train de lui présenter une liste de quelque chose ou de te dire « je suis seule, est-ce que Dieu m'entend ? Dieu ne m'entend pas ?» Comment est-ce qu'il ne t'entendrait pas si tu es avec lui ? Le clic à faire dans la tête et dans le cœur, c'est quand tu entres dans ta chambre, c'est déjà te dire mais Dieu est là. C'est noté dans Matthieu 6, quand tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte, ton Père voit dans le secret. Dès que tu t'arrêtes pour prier, Dieu est là. Jésus, il est avec toi. Et quand tu te mets à prier, imagine toute l'effervescence dans le ciel qui se met à prier avec toi. Ça, c'est un témoignage. Quand tu commences à consacrer ta vie pour prier pour les autres, tu peux prier pour toi, bien sûr, mais que tu pries aussi pour les autres. Tu es en train d'actionner des principes spirituels. Ton sacrificateur est en train de dire « j'ai payé pour cette personne ». Et ça donne de la puissance à ta prière. Dans Romains 8, 34, aussi, l'apôtre Paul nous dit que Jésus intercède pour nous. À plusieurs endroits, il est noté qu'il intercède pour nous. Et dans Hébreux 4, les versets 14 à 16, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Nos propres besoins, nous pouvons aussi les amener au Seigneur. Et même, c'est ce qu'il nous demande. Je témoigne de Jésus-Christ. C'est un honneur que je lui fais quand je vais lui présenter mes besoins. Parce que ça veut dire que je crois qu'il peut intervenir dans mes besoins. Je crois qu'il a payé. Je crois qu'il est vraiment en train de recevoir l'adoration dans le ciel et qu'il a vraiment la domination et la puissance et l'autorité. Et quand je prie avec sa parole, là, je décuple encore les forces d'autorité, de puissance. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été créé par la parole. L'Éternel dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est sa parole qui a créé toute chose, et sa parole, dans Éphésiens 6, il nous est dit que l'épée de l'Esprit, c'est sa parole. L'épée de l'Esprit, c'est sa parole. Et nous savons aussi que l'épée, c'est la parole. Nous savons que l'épée à double tranchant, c'est la parole. Et quand on prie en esprit, et quand on prie par la parole, qu'on commence à proclamer ces versets, on décuple la puissance de Dieu. On témoigne de la parole. On témoigne que cette parole est vraie et qu'elle agit. Ça fortifie notre foi et ça change les circonstances. Alors peut-être que vous allez me dire « oui, mais moi ça fait tellement longtemps que je prie pour telle situation. » C'est vrai. Parfois on doit attendre longtemps. Parfois, Dieu répond d'une manière où on ne s'y attendait pas. Il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte. Jésus nous demande de prier selon sa volonté. Et je crois que c'est déjà la première chose. « Seigneur, quelle est ta volonté dans cette situation ?» Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je prie tellement pour telle chose, mais est-ce que toi, tu aimerais intervenir peut-être à un autre endroit? Moi, je me souviens quand j'allais tellement pas bien, il y a des années et des années avant d'être restaurée, J'avais tellement envie que le Seigneur guérisse une chose précise. Je me disais, mais il guérit ça, puis c'est bon, quoi. Il guérit, il s'est balayé, et ma vie va bien. Et non. Il n'a pas répondu comme ça. Mais par contre, ça a stimulé ma foi. Et j'ai dû le chercher. Et j'ai dû cheminer. Et il y a des gens qui m'ont aidé. Et ça m'a permis aussi d'avoir une vie d'église. Ça m'a permis d'avoir une communauté qui priait avec moi et que moi je me mette à prier pour eux. Et le Seigneur a commencé à guérir une petite chose. Et puis une autre, des choses auxquelles j'avais même pas pensé. Et en guérissant des petites choses et des petites, pour finir, je suis arrivée à ma restauration. Alors, elle n'est pas finie. Puis je pense qu'elle sera finie là-haut, certainement. Mais j'ai dû comprendre que moi j'avais un chemin, que le Seigneur en avait un autre, mais que le sien était meilleur. Et quand je prie selon sa volonté et que j'applique ces principes-là, je suis un témoignage vivant que sa parole est vraie, que Jésus est vivant, que maintenant il intercède pour nous et ça se manifeste. Alors ce matin, moi j'aimerais vous encourager. Encouragez-vous à être des témoins. Quand Jésus dit aux disciples, vous êtes témoins de ces choses, il est en train de leur dire, c'est un nouvel épisode. Cet épisode, il va commencer dans quelques minutes quand je vais monter au ciel. Je ne vous dis pas quelle durée il va avoir, parce qu'il n'y a que le Père qui le sait. Nous, on sait que cette durée, elle est longue. On sent qu'on arrive quand même bientôt un peu à la fin, mais on ne sait pas quand ce sera cette fin. Mais Jésus a dit aux disciples, dans cet épisode, ce que je vous demande, c'est de ne pas être spectateur, mais entrer dans l'épisode. Entrez dans l'épisode, devenez acteur. Trouvez quel rôle vous avez reçu et jouez-le. Jouez-le. Remportez le premier prix, meilleur acteur. Et Jésus ne nous laisse pas orphelins. On le verra la semaine prochaine, jour de Pentecôte. Jésus a dit à ses disciples, attendez, attendez, vous allez recevoir la puissance d'en haut. Les disciples ont reçu ce qu'il fallait, comme nous l'avons reçu aussi. Nous avons reçu l'Esprit pour nourrir nos prières. Mais moi, il y a une image que j'aimerais vous laisser. Jésus les conduisit jusqu'à vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Il n'y a pas marqué que Jésus a baissé ses mains. Jésus a levé ses mains, il s'est mis à bénir les disciples et il a continué à s'élever, comme si encore maintenant, il a toujours ses mains levées et il est toujours en train de nous bénir. Il est toujours en train de nous revêtir de son esprit, de cette puissance d'en haut. Il est toujours en train de rafraîchir notre esprit pour qu'on ait les révélations de sa parole. Il est toujours en train de nous équiper pour qu'on soit des témoins vivants, parce que lui, il témoigne de nous devant le Père en disant « J'ai payé ». Alors soyez encouragés, Jésus a ses mains levées pour chacun d'entre vous. Seigneur, merci. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu as tes mains levées sur chacun d'entre nous. Merci parce que tu déverses ta puissance sur chacun d'entre nous. Merci parce que tu es monté au ciel pour te présenter comme sacrifice vivant. Tu as payé pour chacune de nos fautes, pour nos maladies, pour tous nos problèmes, pour tout ce qui est de notre vie, tout ce qui a été affecté lors de la chute. Tu as payé pour tout ça. Et tu nous équipes. Et tu pries pour nous. Et tu pries avec nous. Tu es toujours avec nous. Tu es dans les lieux célestes, mais tu es présent en nous. Seigneur, gloire à toi. Je te demande encore que ton Saint-Esprit nous donne cette révélation pour que dans notre vie de prière, que dans notre vie quotidienne, chacun d'entre nous, nous soyons capables d'avoir toujours cette pensée à l'Esprit que tu es en train d'intercéder pour nous et qu'on peut s'adresser à toi directement, être partenaire, main dans la main avec toi pour prier, pour intercéder. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui fais amplifier notre prière. C'est toi qui amplifie la puissance, parce que c'est toi qui as reçu la domination sur les autorités, sur les puissances, sur les dignités. C'est toi qui as reçu toute autorité. C'est toi aussi qui es le juste juge. C'est toi qui fais justice. Alors je te demande cette révélation dans nos cœurs, que notre vie de prière ne soit plus jamais la même, pour être des témoins vivants et pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Jésus, merci Père et merci Saint-Esprit. Amen.